au gouvernement de François Legault, qu'il invite à déposer d'ici le 1er octobre 2020 un plan de transition économique crédible. Si le Premier ministre échoue à respecter cet ultimatum, Québec solidaire annonce d'ores et déjà qu'ils feront barrage en usant de tous les moyens dont ils disposent à l'Assemblée nationale, comme dans la rue, pour forcer le gouvernement à agir. Un premier rassemblement pour le climat est d'ailleurs prévu ce mercredi 27 mars devant l'Assemblée nationale à 18h. Les députés britanniques ont voté aujourd'hui, et ce, contre l'avis de l'exécutif, une série d'alternatives à l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par la Première ministre Theresa May. Des alternatives qui permettraient aux opposants de la politique du gouvernement de reprendre la main sur l'agenda chaotique du Brexit. Une situation très inhabituelle qui n'est pas arrivée depuis 100 ans et qui force Theresa May à obtenir un large soutien transpartisan, selon Robert Hazell du département constitutionnel de la University College de Londres. En 1988, le Premier ministre libéral Robert Bourassa avait eu recours à la clause dérogatoire afin d'imposer l'affichage unilingue français à l'extérieur des commerces au Québec. Et c'est bien ce que semble vouloir utiliser François Legault pour, je cite, « protéger ce que l'on a de différent au Québec, il faut être prêt ». À l'utiliser. Fin de citation. La CAQ semble en effet vouloir déposer jeudi son projet de loi interdisant le port des signes religieux aux employés de l'État ayant un pouvoir coercitif. On parle des policiers, juges, procureurs, gardiens de prison et enseignants, avec toutefois une clause grand-père pour ceux qui en portent déjà. D'ici là, le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Simon Jolin Barrette, également responsable du projet de loi sur la laïcité, invite les groupes à, je cite, baisser le ton. Le réseau de transport de la capitale annonce un retour progressif aux activités normales pour les services de transport adaptés à Québec. Les nouvelles demandes de déplacement pour aujourd'hui seront traitées selon leur ordre d'arrivée et au meilleur des capacités disponibles. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service à la clientèle au 418-687-2641, poste 0. À la une de l'émission politique, salut à toi ce soir à 19h à CKIA, la troisième édition du Festival contre le racisme, l'histoire de la militante Mathilde Prévost et le nouveau méga gazoduc de GNL Québec, le pipeline à combattre. Salut à toi à notre antenne ce soir, 19h. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi de Beauport à Hertz en Ontario.
Bonjour et bienvenue à cette autre édition des Cafés. Vous êtes en compagnie de Michel Bédard et Olivier, pas très loin. Salut Olivier.
Salut.
Je présente l'émission tout de suite, puis on jase. On a deux beaux, mais alors là, gros sujets ensemble dans quelques secondes. Mais tout d'abord, comme je le disais, je vous présente le menu de l'émission. Je vais m'entretenir avec Jean-Marie Damour, qui est secrétaire du conseil d'administration du RAAC. Et président du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Avec lui, on va parler d'accessibilité au web pour les non-voyants. Je vais aussi m'entretenir avec Jonathan Marchand, qui lui est président de la coop Assist, coopérative québécoise pour la vie autonome. Avec lui, donc, on va parler budget, mais plus précisément de l'aspect soins à domicile. Il y avait des montants qui étaient attendus, mais il semble que la livraison de ces montants-là n'ait pas été adéquate. Et on va également s'entretenir avec Véronique Vézina, qui, elle, est présidente du comité des usagers de l'IRDPQ. Avec elle, on va jaser d'une journée bien spéciale qui s'en vient samedi au Centre de réadaptation en déficience physique de Québec. Donc, ça va être à voir. Et ben, on l'a entendu déjà, on va jaser avec Olivier. Hey, grosse semaine, mon cher Olivier.
Oui, grosse semaine. Écoute, on va casser la glace avec le sujet prise de tête de la semaine. La grève qui est partie lundi, donc de l'industrie du taxi pour manifester leur désaccord avec le projet de loi 17 qui s'en vient, donc qui réforme l'industrie du taxi. En fait, je dirais l'industrie du transport des personnes, parce que visiblement, bientôt, on ne pourra plus juste dire taxi. Et vis-à-vis du budget, donc pour résumer le dossier, le ministre des Transports a décidé que, à l'avenir, en tout cas c'est ce qu'il nous propose comme peuple de discuter, c'est une disparition des contraintes pour opérer le transport rémunéré des personnes. Donc ce qu'il faut comprendre, historiquement au Québec, on avait créé des quotas. Grâce à ces quotas-là, ça permettait de garantir, si tu veux, un certain niveau de vie pour les chauffeurs et surtout pour les propriétaires de taxis. Donc ça limitait, si tu veux, les entrées, un petit peu comme les quotas laitiers pour l'agriculture ou d'autres types de quotas pour le milieu agricole. Et malheureusement, pour l'industrie du taxi, la réflexion n'a pas été la même que pour les quotas agricoles qui sont menacés par la mondialisation et où là, on va indemniser les agriculteurs parce que sinon, ça va être la ruine au Québec. Pour les chauffeurs de taxi, on leur a dit, vous nous aviez dit 1,5 milliard, on va vous donner 500 millions. Et on va tout simplement permettre d'alléger énormément les contraintes pour qu'on puisse rentrer sur ce marché-là, donc du transport rémunéré des personnes. Les différentes entités, le taxi, c'est un milieu un peu complexe. C'est des travailleurs autonomes, enfin des propriétaires qui sont ou pas travailleurs autonomes, des propriétaires qui peuvent avoir des chauffeurs, des propriétaires qui peuvent louer leur voiture et leur permis à des chauffeurs. Bon, toute cette espèce de nébuleuse avec des intermédiaires, comme à Québec, on a Taxi Coop, Taxi Charlebourg, avec des regroupements de travailleurs, des regroupements de propriétaires pour Québec, pour le Québec. Bon, ils ont décidé que lundi, assez c'était assez, ils coupaient les services. Je sais que du côté des associations, en tout cas la nôtre, et au niveau du regroupement des personnes handicapées visuelles dans la région, vendredi, on avait commencé à faire des contacts. On avait bien compris, en discutant aussi avec les gens du RTC Stack, que lundi, ça allait être sold out. La difficulté, c'est que bon, est-ce que c'était lundi, mardi, mercredi, ça allait durer combien de temps? Il y avait un certain flottement. Au final, pour les gens concernés ou ceux qui l'ont vu aux médias, lundi, ça a été zéro service. Mardi matin, service taxi la moitié de la journée, mais comme le stack n'avait pas pu planifier puis que c'était pas clair, bon, il y a des services qui ont repris un petit peu
hier
soir. Là, nous, on leur avait fait la demande de dire, est-ce qu'on peut essayer de voir? Le stack a essayé de faire un effort. Je vous avoue que dans cette situation-là, ils ont fait bien ce qu'ils pouvaient. Là, la situation, on est à l'heure actuelle. Je pense que les gens ont compris l'importance du taxi. Je pense que ça, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, là, ils l'ont vu. Faut savoir que ça a aussi eu des conséquences sur plein d'autres types de services que le transport adapté, les facteurs qui se sont débrouillés en louant des minivans, les hôpitaux, des gens qui attendent dans le hall quelqu'un pour rentrer chez eux, il n'y a plus de taxi, des employés qui ne peuvent pas faire la navette entre les établissements, des gens qui sont hébergés, qui ne peuvent pas aller à des activités parce que c'est de l'interhospitalier, il n'y a pas de service, les commissions scolaires, il y a des taxis qui font du ramassage, ça a été vraiment, une démonstration massive. Pour ce que j'en comprends, à certains endroits, ça a été aussi l'occasion pour Uber
d'exploser,
d'aller expliquer aux gens comment on installait l'application. Hier, le taxi donc a cessé la grève. Ce qu'on comprend, nous, c'est le message qu'on a reçu de Taxi Coop, c'est qu'il n'y a pas d'autres actions prévues pour le reste de la semaine. Moi, ce que j'ai encore du mal à lire dans ce qui s'en vient, c'est est-ce que ça recommence la semaine prochaine? Est-ce que dans les techniques de grève, pour ceux qui connaissent un petit peu ça, il y en a plusieurs des techniques de grève. Tu as les techniques de grève perlées, celles-là, c'est les meilleures. J'arrête de 9h30 à 10h moins le quart. Mais je t'ai pas prévenu avant. C'est juste 15 minutes, mais alors si tu commences à faire ça en transport adapté, parce que tu vois le bordel. Là.
Ah, tout à fait.
Donc on ne sait pas trop ce qui s'en vient. Je sais qu'en tout cas, moi de mon côté, je suis en discussion avec différentes personnes pour essayer de venir signifier clairement à l'industrie du taxi qu'il y a d'autres cibles à taper. Il y a une autre manière de désorganiser l'État, certainement. Tu sais, ne serait-ce que, je sais pas, envoyer 50 fax de pages noires en même temps dans un fax, le fax il crame. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est légal, mais disons qu'il y a plein de manières de nuire à l'État sans nuire aux individus. Et après, pour ce qui s'en vient, Moi, je suis en train de regarder et j'invite les gens à faire des petites recherches sur Internet. C'est assez facile. Tapez Uber et puis tapez poursuite, lawsuit, et tapez fauteuil roulant, wheelchair, tapez disable. Puis vous allez voir un petit peu comment ces entreprises-là fonctionnent ailleurs. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des projets pilotes, puis il y a des villes qui ont accepté d'embarquer avec Uber ou des compagnies équivalentes pour faire du transport adapté. Mais ce qu'on peut constater, moi c'est là où j'en suis, c'est le même constat depuis 4 ans, c'est des organisations qui, bien qu'elles sachent qu'ailleurs c'est un besoin, quand elles arrivent à un nouvel endroit, n'appliquent pas les bonnes pratiques de ce qu'elles ont pris ailleurs. Comme on l'a vu, prenons un exemple, un autre grand exemple, Walmart. Ils ont des caisses automatiques qui sont accessibles, mais installées au Québec, si personne leur demande, elles ne le sont pas. Mm-hmm. Alors que c'est la même, je veux dire, ça nous a pris 10 minutes, Michel.
Je sais, je me rappelle.
Donc
On pense au budget?
Oui, écoutez, au budget. Alors moi, j'ai eu la chance de rester 8 heures enfermé pour regarder le huis clos du budget du Québec. Une expérience, en tout cas, faut pas avoir trop de sensibilité environnementale. C'est infernal, il y a du bruit, c'est cacophonique et tout le monde avait décidé de mettre un parfum différent, ce qui nous donnait, en tout cas... ça valait le coup d'aller dans le corridor de temps en temps.
Et pour les personnes handicapées?
Écoute, c'est...
Peu de choses?
Peu de choses. On comprend qu'il y a une stratégie en emploi qui s'en vient. On nous parle de 400 CIT, 400 places en entreprise adaptée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est environ 4000 de chaque qu'on a à l'heure actuelle. Donc, c'est sur 5 ans, une augmentation de 10%, alors que ça fait 5 ans que c'est gelé. Depuis 2014, à peu de choses près, il n'y a pas ou très peu d'investissement pour ce type de contrat-là. Ouverture de classes spéciales en intégration scolaire. On en annonce beaucoup. On savait que c'était une des priorités de la CAQ. Il y a des indications sur une enveloppe flottante qu'on appelle le programme d'adaptation de domicile. Moi, personnellement, je vois un 16 millions cette année, 20 millions les années suivantes, mais tu n'as pas de comparable, tu ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Le programme d'adaptation de domicile, d'habitude, c'est entre 20 et 25 millions. Là, 16, 20, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ouais, on a du mal à le voir. En soutien à domicile, ça, je vais laisser Jonathan nous faire une analyse plus longue et plus creusée. Il y a des choses intéressantes, mais qu'il faut voir sous un angle un petit peu plus croche, mais ils sont en train d'essayer de centraliser certaines structures au gouvernement du Québec pour des achats, pour du développement de technologies. Là, pour une fois, puis il va falloir qu'on s'en occupe, mais on va peut-être avoir des poignées pour arrêter d'aller voir chaque ministère, chaque organisme, pour se dire, si vous centralisez certaines expertises, par exemple sur les achats, est-ce qu'on peut commencer à parler d'achats accessibles? C'est un truc tout bête, ça serait peut-être bien que dans les hôpitaux, les tables, elles s'ajustent jusqu'à 40 cm du sol pour faciliter les transferts. Ce serait peut-être bien que des fois, il y ait des lèves-personnes. Des trucs niaiseux, mais qui font, Michel, tu le sais mieux que moi, que ça te pourrit une journée à l'hôpital. Donc, ces enjeux-là, est-ce qu'on peut acheter des photocopieurs libre-service qui respectent certains besoins pour les personnes handicapées visuelles, à la bonne hauteur pour les personnes en fauteuil roulant? Tout ça, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, qu'il va peut-être falloir saisir. Transport adapté, on nous avait annoncé plus que ce qui est marqué là, mais c'est une enveloppe un peu particulière, le transport adapté. Elle est à cheval sur l'année financière des transporteurs. C'est un peu compliqué, mais techniquement, le gouvernement, c'est du 1er avril au 31 mars, une municipalité ou un RTC, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, sur la base des chiffres qui sont là, je ne sais pas si l'argent qui avait été promis l'année passée va être investi, mais je n'ai pas de signe non plus que non. Le programme d'adaptation de véhicules taxi, il est quand même rendu à 3,5 millions. On a eu des années à 1,5 ou 2 millions, donc c'est une bonne nouvelle. Le seul bémol, c'est que là, ils ont réintroduit les autocars, par exemple Intercar, et qu'un autocar, c'est 50 000 $. Alors, comme ça fait plusieurs années qu'on ne pouvait pas adapter d'autocars, est-ce que ça veut dire que les autocars vont toutes retourner dans le programme, puis que c'est les taxis, c'est premier arrivé, premier servi, ces enveloppes, que là, c'est des taxis adaptés qu'on ne pourra pas faire? Mais on vient d'en parler, vu le bordel dans l'industrie du taxi, de toute façon, je pense que des gens qui vont vouloir faire adapter, on risque d'avoir un petit peu de flottement dans ce qui s'en vient. Ça résume, il y en a d'autres trucs, mais je vais passer au fédéral. Fédéral, ben écoutez, c'est l'élection cette année, hein, l'érection, comme dirait Stephen Harper, qui manquait de R et de L. Donc, il propose de réinvestir de l'argent dans un programme qui s'appelle Prêt, Disponible et Capable. Donc, qui était un programme qui était porté en partenariat par l'Association canadienne pour l'intégration communautaire et l'Alliance canadienne des troubles du spectre de l'autisme. Donc, 12 millions de dollars sur 3 ans. Ben, écoutez, en approche populationnelle, le Québec, on ramasse un quart, là. Donc, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars pour le Québec. Ils poursuivent les différents investissements. Ils veulent notamment embaucher. Alors, si vous cherchez du travail, là, au fédéral, s'ils sont réélus, ça s'en vient. Ils parlent quand même de 5000 personnes. Donc, pour le Québec, encore une fois, ça veut dire peut-être 1000 et quelques emplois qui sont quand même des emplois, je pense, peut-être pas intéressants à faire, mais au moins intéressants quand on voit le chèque. Ils veulent aussi essayer d'investir donc, sur les parallèlement de l'argent pour adapter les postes. Donc, ils mettent de l'argent pour faire de l'adaptation de postes. Encore une fois, bon, bah, petite point spécifique pour essayer d'améliorer l'accès aux livres pour les personnes handicapées visuelles. Ça, c'est un gros débat. Il y a eu toute la question de l'ouverture des droits d'auteur, une conférence à Marrakech et tout ça. Donc là, apparemment, ils sont prêts à investir. Et je trouve que c'est intéressant, mais un demi-million de dollars pour améliorer l'accès aux TPV, aux terminaux de paiement. C'est con, moi j'avais fait des démarches là-dessus, puis il y en a des solutions. Chez Costco, l'autre fois, j'ai vu qu'il était conforme, tu peux brancher un casque pour écouter, mais personne ne savait comment faire au Costco, parce que c'est Costco États-Unis qui sait faire, parce qu'au Québec, tu n'es pas obligé, encore une fois, comme Uber. Le REEI, ça je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu passer, mais c'est quand même intéressant. Moi, le point le plus intéressant, c'est que tu ne perds pas ton REEI si tu perds ton statut. Donc, si tu n'as plus accès au crédit d'impôt, on ne ferme pas ton REI. Puis ça, là, il faut comprendre que pour avoir accès au crédit d'impôt, ton niveau de limitation doit être très important, parfois difficile à prouver, notamment quand tu es une personne avec un trouble du spectre de l'autisme. Puis là, tu as des parents qui investissaient pour aider leur enfant, puis leur enfant ne scorait plus pour le crédit d'impôt, ils perdaient tout. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant, et aussi d'enlever les possibilités de saisie en cas de faillite. Parce que là, un parent qui fait faillite, l'enfant a REEI, tu lui dis, il y a 50 000 sur le REEI, retire ton argent, ben, sur le 50 000, tu rembourses tout au gouvernement, ce que tu lui dois, soit 30 000 à peu près, puis il ne te reste plus que 20 000. Donc la famille perd 50 000 pour rembourser au final juste 20 000. C'était débile. Donc ça, je trouve, c'est quelque chose d'intéressant.
Dernier point.
Oui, ben, le dernier point, en fait, ça, c'est plus mon truc, mais il parle d'instaurer une politique alimentaire au Canada. On avait déposé, justement, avec les gens du regroupement des aveugles et ambilobes du Québec, un mémoire sur l'étiquetage nutritionnel pour essayer de l'améliorer. Ben, dans le budget, juste après la partie rendre le Canada accessible et soutenir les personnes handicapées, il nous parle de ces enjeux-là, mais là, les personnes handicapées, ils ne sont plus. Donc, ça montre toute la cohérence. C'est un budget qui est très, très électoral. Donc, il est très bien découpé. Vous pouvez aller le voir. Il y en a pour tout le monde. Hein. C'est comme d'habitude avant une érection. Donc, en tout cas, intéressant pour finir quand même, pour les gens qui en douteraient encore, c'est comme au Québec. Nombre de plaintes reçues par la Commission canadienne des droits de la personne, 59% des plaintes, c'est pour un handicap.
Aïe aïe.
Voilà. Donc, s'il y a un endroit où les personnes handicapées semblent, on reconnaît leurs compétences, c'est pour être discriminé. Là-dessus, il n'y a aucun doute.
Ceci est une belle conclusion, mon cher Olivier. On se revoit la semaine prochaine.
Alors, à très bientôt, Michel.
Et dans quelques minutes, on jase de la journée organisée par le Comité des usagers de l'IRDPQ.
Sera le temps dans le rose à l'horizon, qui sera l'orage dans la prose du vent, quand s'épanchent les présages, qui lira la tradition, Et quand j'aurai trois fois mon âge, qui s'en balancera pour de bon. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or. Et si on devenait joyeux d'années-lumière, de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or. Quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands de vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux. On court après le temps mais on veut pas voir son sillage. Pas dans l'écran et pas dans les visages. Pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire, l'histoire, elle se berce toute seule dans les couloirs. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or. Et si on devenait joyeux d'années-lumière, de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or. Quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants, qui tracent la grande ours devant des yeux grands, de vieillard à mine d'or. Sans être vieux. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or. Et si on devenait joaillier d'années-lumière, de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or. À quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands, de vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux.
Les joailliers sur les ondes de CKIA FM. Vous êtes à l'émission Les Capés. Et maintenant, ben, on va jaser avec Véronique Vézina, qui, elle, est présidente du comité des usagers de l'IRDPQ, Institut en réadaptation physique de Québec. T'as plus ça de dire IRDPQ, hein? Salut Véro, ça va bien?
Bonjour, oui, toi aussi.
Oui, ça va super bien. Hey, grosse journée samedi.
Grosse journée samedi, une journée d'information sur les services qui sont offerts aux personnes qui ont une déficience physique, donc que ce soit une déficience motrice, visuelle, du langage ou auditive. Les gens sont là pour présenter les services qui existent dans le milieu communautaire, mais il y a aussi des organisations publiques qui vont être présentes, dont le CIUS. Il va y avoir des directeurs du CIUS, deux directeurs, un directeur et une directrice du CIUS qui vont être présents pour parler de leurs services, pour vous écouter. Il va y avoir aussi des gens de la SAC qui vont être présents. Puis on a quatre conférenciers, quatre conférences différentes là, sur des sujets qui touchent à peu près tout le monde. La douleur chronique, la résilience et puis la passion puis l'important du dépassement de soi.
Mm-hmm. Il y a 26 kiosques. Tu en as élaboré, effleuré quelques-uns. Peux-tu être un peu plus précise dans le type de kiosque que vous allez avoir cette journée-là?
On a des organismes communautaires en loisirs, des organismes communautaires, je ne les nommerai pas toutes parce que je risque d'en oublier, des organismes communautaires qui ont des projets d'habitation, qui offrent du répit, aussi des organismes communautaires qui offrent des services en déficience visuelle, en déficience auditive, déficience du langage, déficience motrice. On a les grands brûlés, les gens qui s'occupent des personnes qui ont des douleurs chroniques. J'ai parlé de la SAG, du CIUS. Bien sûr, il va y avoir un kiosque du comité des usagers. On a aussi Ami Télé qui va être là. Et Finhandicap, c'est la période des impôts. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent avoir des conseils ou qui ont besoin de soutien, c'est le temps. Ces gens-là sont spécialisés en crédit d'impôt, personnes handicapées et pour faire vos rapports d'impôts.
Vos rapports d'impôts. Comment c'est venu un peu cette idée de faire cette journée-là?
Bien, en fait, au comité des usagers, on reçoit énormément d'appels Oui, sur les services qui sont offerts à l'IRDPQ, mais sur les services en général qui sont offerts pour les personnes handicapées. Donc, on reçoit leur appel, on essaie de leur répondre du mieux possible, mais on a décidé pour qu'on puisse s'adresser à un plus grand public, de regrouper toutes ces personnes-là et de pouvoir permettre aux personnes de venir à un seul endroit puis chercher toutes les informations dont ils ont besoin.
Intéressant. Et donc, tu disais qu'il va y avoir 3 conférences.
En fait, il y a 4 conférences. Il y en a 2 le matin de 9h à 10h30. Une qui est offerte par M. Patrick Pelletier, qui est sur la résilience. Donc, ça s'appelle « Entrons en résilience ». C'est un conférencier international qui est habitué de parler de ce sujet.
Et pour les auditeurs de CKIA, Patrick Pelletier a déjà eu une émission ici sur ce sujet-là, ici à CKIA. Mais vas-y avec les autres.
Ensuite, on a une dame qui vient nous parler, qui est elle-même atteinte de douleurs chroniques et qui vient nous parler comment on vit avec une douleur chronique et comment on peut faire mieux pour réduire les douleurs, même si elles sont toujours présentes. Elle va sûrement nous proposer des façons de les apaiser. Il va y avoir aussi une conférence du comité des usagers pour présenter ce qu'est le comité des usagers, c'est quoi les droits des usagers. Et il va y avoir une conférence de Jimmy Pelletier, qui est un athlète paralympique, qui va venir de nous parler de sa passion, le sport, mais aussi de ses différents projets et du dépassement de soi, ce qui est pour lui quelque chose de très, très important.
On sait que Jimmy Pelletier va avoir un gros défi qui s'en vient pour lui dans les prochains mois.
Effectivement, il va traverser le Canada en vélo.
Oui, c'est une grosse épreuve pour lui. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait bien de mentionner pour cette journée-là?
Bien, préciser qu'il va y avoir des interprètes pour les personnes sourdes et malentendantes, des interprètes LSQ et oralistes. Il va y avoir des prix de présence qui sont offerts par nos conférenciers. Il va y avoir des petites collations en avant-midi. Et on va avoir la caravane d'Adaptavie. On n'en a pas parlé, mais Adaptavie va offrir des sports adaptés, puis les gens vont pouvoir les essayer. Donc, c'est super intéressant. Vous n'avez qu'à vous présenter à l'IRDPQ entre 9h et 3h. Samedi le 30 mars, samedi qui arrive, et il y aura des gens pour vous accueillir, puis je suis certain que vous veniez toute la journée ou quelques heures, vous allez trouver des informations qui sont intéressantes pour vous.
Pour ce qui est d'Adaptavie, est-ce qu'on a une idée des sports qui vont être présents?
Je sais qu'il va y avoir de la luge adaptée, il va y en avoir au moins 2 autres, là, mais je ne les connais pas encore.
OK. Donc, ça se passe samedi, et de 9h à 15h, c'est dans le coin de l'auditorium, je pense.
C'est à l'auditorium. Les kiosques d'information et l'accueil sont à l'auditorium. Il va y avoir 2 salles là, qui sont connexes à l'auditorium où il va y avoir les conférences.
Donc, de 9h à 15h, on attend la population. Puis même si vous n'êtes pas handicapé, ça pourrait peut-être intéresser aussi.
Vous avez quelqu'un de votre famille, vous voulez savoir qu'est-ce qui est offert, c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est une activité qui est gratuite. On va être très content de vous accueillir puis de vous parler de ce qui existe pour les personnes handicapées, autant en parler aux personnes qui sont concernées qu'aux autres.
Ça va être une super belle journée. Bien, merci beaucoup, Véronique.
Merci, ça fait plaisir.
Présidente du comité des usagers de l'IRDPQ. C'est une invitation qui est lancée et surveillée, c'est cohérent. Il va y avoir beaucoup de publicité ici dans les prochains jours concernant cette activité-là. Bien, nous, on y va en musique et par la suite, on revient sur le budget. Je vais m'entretenir avec Jonathan Marchand, qui est président de la coop Assist, et on va parler de l'aspect plus soins à domicile qui a été présenté dans le budget la semaine dernière.
J'ai crevé ton troisième œil, brûlé tes superstitions, enterré dans un cercueil.
Superstition sur les ondes de CKIA FM. Vous êtes à l'émission Les Capés avec Michel Bédard derrière le micro et c'est maintenant le temps de revenir sur le budget. On en a parlé avec Olivier tantôt lors de sa chronique L'actualité des Capés. Mais là, on va s'attarder à une partie, à une section du budget plus spécifique, celle des soins à domicile. Et pour en parler, j'ai avec moi au téléphone Jonathan Marchand, qui est président de Coop Assist, coopérative québécoise pour la vie autonome. Salut Jonathan, ça va bien?
Salut Michel, ça va très bien, toi?
Oui, ça va. Donc, on a eu la présentation du budget mercredi dernier. Vous autres, chez Coop Assist, comment avez-vous perçu ce qui a été annoncé pour ce qui est des soins à domicile?
Ben, c'est sûr que c'est un pas en avant, ce qu'ils ont annoncé. Ils ont annoncé 280 millions de dollars pour cette année en soutien à domicile, ce qui représente 1,5 milliard sur 5 ans. Mais c'est clair que pour nous, on se questionne, bon, qu'est-ce que ça va faire pour les personnes handicapées? Nous, on pense pas que ça va vraiment venir nous aider. Hein, parce que le système de soutien à domicile ne va jamais permettre aux personnes handicapées d'être incluses dans la société, même avec des investissements massifs. Parce que la grande majorité des personnes handicapées qui ont besoin d'assistance personnelle, ben, ils vivent dans des institutions au Québec. On parle d'environ 15 000 personnes handicapées. Ce qui représente environ 60 à 70% de toutes les personnes handicapées qui ont besoin d'assistance personnelle au Québec. Et ça, c'est dû en grande partie au système de soutien à domicile qui ne fonctionne pas pour nous.
Qu'est-ce qui cloche dans ce système-là?
Non, c'est un système, le système de soutien à domicile. En fait, on pourrait dire que c'est de la détention à domicile. C'est un système qui est conçu pour nous garder en vie seulement. C'est il n'y a pas moyen de participer à la société avec ce système-là. C'est-à-dire les activités en dehors du domicile ne sont pas couvertes par le programme. Donc, on peut pas avoir des projets de vie comme tout le monde. On peut pas pouvoir travailler, avoir une vie sociale, une vie familiale, avoir des loisirs.
Donc, quelqu'un, par exemple, qui aurait besoin d'assistance pour aller à la salle de bain sur son heure de dîner, c'est pas couvert par le système, c'est ce que je comprends bien.
Moi, ben, c'est ceci, c'est en milieu de travail. Non, officiellement, c'est pas couvert. Tout ce qui est en dehors du domicile n'est pas couvert. Puis aussi, bon, il y a des plafonds arbitraires. Aussitôt que tu as besoin de plus de 44 heures de soutien à domicile par semaine, ben là, on dirige vers une institution, un CHSED ou une ressource intermédiaire, etc.
Quel serait le nombre d'heures qui pourrait être, disons, acceptable? Parce que tu dis que 44 heures par semaine, c'est pas suffisant. Ça prendrait combien d'heures?
Ben, nous, c'est clair qu'il ne devrait pas avoir de plafond. Ça devrait être selon les besoins de la personne. Puis aussi dans le système de la santé présentement, quand tu demandes au CIS, au CIUS, s'il y a des plafonds, souvent c'est ça qui te répond. Hein. C'est selon les besoins de la personne, mais c'est clair que bon, administrativement, il y a des règles. Puis après 44 heures, oublie ça, là, c'est l'institution pour toi. Donc pour nous, les services devraient couvrir jusqu'à 24 heures sur 24 à domicile. Puis ça, il n'y a pas de désavantage à offrir ça non plus. Hein.
Parce que je pense que, justement, si le système offrait la possibilité d'avoir un 24-7 à la maison, ça serait financièrement plus avantageux.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que quand tu as besoin d'assistance 24h/24, ça veut dire que bon, tu as un handicap sévère. Bon, si on parle de ma situation, par exemple, moi, je vis en CHSED parce que je peux pas vivre à domicile avec le soutien à domicile. Mais il y a plein d'embûches de réglementation, de financement. Puis bon, ça fait 8 ans que j'essaie de sortir d'ici. Ta question, c'est quoi?
Ben justement, ça serait quoi le nombre d'heures qui pourrait être acceptable pour...
Ben, 168 heures. 168 heures et plus par semaine. Ça, c'est possible. Ça se fait dans certains endroits au Canada. Ça se fait ailleurs dans le monde aussi. Ça se fait dans les pays scandinaves, au Danemark, en Norvège, en Suède, même en France.
Et pourquoi ça ne pourrait pas se faire ici? C'est une question de volonté gouvernementale?
Ben, oui, en partie, mais le système qu'on a au Québec il est hautement médicalisé. C'est un système, comme je dis, qui est conçu que pour garder en vie les gens. Puis, il y a plein d'embûches, de financement, de réglementation. Parce que moi, dans ma situation, par exemple, ce qu'on me dit, c'est que si je vivrais en dehors d'un hôpital, ben, il faudrait que je sois accompagné 24h/24 par des infirmières. Puis, ce jeu de ça coûterait énormément cher. Et puis, moi, ce que je veux, c'est en fait pouvoir choisir mes assistants, puis, bon, choisir mon propre mode de vie, qui est plus régi par le système médical. Donc, c'est très possible d'avoir de l'assistance 24h/24. Économiquement, c'est très viable. Puis, on devrait pouvoir offrir ça aux gens pour qu'ils puissent rester chez eux.
Mais dans le gouvernement, dans le budget qui a été annoncé la semaine passée, on est loin, loin, loin de ça. Puis, il semble même pas y avoir une ouverture gouvernementale à aller plus loin, à copier, si je peux prendre l'expression, ce qui se fait ailleurs.
Non, c'est vrai. C'est du pareil au même. Puis, on continue aussi d'investir massivement dans les institutions. Hein. C'est ce qu'ils veulent faire, c'est ouvrir des MSLD, qu'ils appellent, des milieux de soins de longue durée là, pour remplacer les CHSLD. Mais nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de créer un nouveau programme, un programme qu'on appelle le programme d'assistance personnelle autodirigée, qui serait basé sur les principes de la vie autonome, pour respecter les droits de la personne. Donc, on propose de créer ce programme-là qui fonctionnerait sur des nouvelles bases. Donc, ça comblerait tous les besoins d'assistance des personnes handicapées. On parle des besoins de base aussi des besoins hors du domicile pour qu'on puisse participer à la société comme tous les autres citoyens. Donc, oui.
Et au ministère de la Santé, qu'est-ce qu'on vous répond quand vous demandez ce genre de choses-là? On n'a pas d'argent? Ou c'est quoi que vous faites répondre? Je comprends. Ce serait intéressant de savoir.
Ben, nous, au mois de janvier, on a déposé une demande officielle pour un projet pilote. Puis cette demande-là est présentement à l'étude par les fonctionnaires. La prochaine étape, c'est de rencontrer le cabinet de la ministre de la Santé, Mme McCann, pour faire approuver un projet pilote là, pour démontrer la faisabilité et les bénéfices de notre approche.
Quand est-ce qu'on pourrait voir ce projet pilote-là sur pied?
Là, c'est clair que pour nous, la situation est urgente. On veut procéder dans les plus brefs délais parce que, bon, si on a l'argent demain matin, mais c'est clair qu'on va pouvoir mettre en place ce projet pilote quand même assez rapidement. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de détails à discuter avec le gouvernement, mais nous, on veut avancer rapidement dans le dossier. Et pour la première phase du projet pilote, ce qu'on propose, c'est de commencer avec des personnes qui ont un handicap physique qui peuvent gérer leur propre service d'assistance. Mais éventuellement, on voudrait inclure d'autres types de clientèle aussi dans le projet pilote. on parle de personnes avec handicap multiple, personnes avec handicap intellectuel, des personnes autistes, ça pourrait être des mineurs aussi. Donc, on veut y aller étape par étape, mais bon, dans un premier temps, il faut qu'on montre là, que c'est possible.
Et pour suivre un peu vos démarches, comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a un site Internet, une page Facebook? Comment on peut vous rejoindre?
Oui, vous pouvez aller sur notre site Internet, c'est coopassist.ca, c'est coopassist.ca. On peut nous trouver sur Facebook aussi. On est présentement à la recherche d'appui. Donc, vous pouvez aller sur notre site et indiquer votre appui. Et si vous êtes une personne en situation de handicap qui a besoin d'assistance personnelle, vous pouvez aussi appliquer pour devenir membre de la coopérative.
Donc, je répète, coopassist.ca, coopassist.ca sur Internet. Et la même chose, Coop Assist sur Facebook.
C'est ça.
Donc, ben, merci beaucoup, Jonathan, qui est, lui, président de cette Coop Assist. Et on va suivre ça de près, ce beau dossier qu'est le maintien à domicile.
Bon, ben, parfait. Merci.
Merci, là. Bye-bye. Eh bien, nous, dans quelques minutes, je vais m'entretenir avec Jean-Marie Damour, qui est secrétaire du conseil d'administration du RAAC et aussi président du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Avec lui, on parle d'accessibilité au web pour les non-voyants. Voyage sur les ondes de CKIA FM avec Jonathan Personne. Et bien, c'est Michel Bédard qui est au micro. Vous écoutez l'émission Les Capés. Et là, maintenant, on va parler d'accessibilité au web pour les gens qui ont une déficience visuelle avec M. Jean-Marie Damour, qui est secrétaire du conseil d'administration du RAAC et président du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Bonjour, M. Damour, vous allez bien?
Oui, très bien.
Donc, il y a quelques temps, c'était la semaine québécoise de la canne blanche. Et dans le cadre de cette semaine-là, votre organisation a soulevé la problématique d'accessibilité au web pour les non-voyants. En gros, quels sont les problèmes d'accessibilité auxquels vous faites face sur Internet?
En fait, on a fait une étude sur près de 1000 sites web québécois pour vérifier effectivement leur niveau d'accessibilité. Puis sur ces 1000 sites-là, il y en a à 80 % je pense que c'est 82 % de mémoire qui n'obtiennent pas la note de passage au niveau de l'accessibilité. Je peux vous donner des exemples de problèmes qu'on a détectés.
Mm-hmm, allez-y.
Bon. Par exemple, pour les personnes qui ont une basse vision, un des problèmes les plus fréquents, sur 90 % des sites web, il y a des problèmes de contraste de couleur. Alors, ça, c'est quand même un obstacle. Pour les personnes aveugles, on a très souvent aussi, là, dans 60 % des cas, on a des formulaires dont les étiquettes ne sont pas correctement associées au champ. Ce qui fait que quand on veut remplir ces formulaires-là avec un lecteur d'écran, le lecteur d'écran ne peut pas nous donner la bonne question qui correspond à ce champ-là. Alors, c'est un problème majeur aussi. Hein? Au niveau des éléments interactifs qu'on rencontre de plus en plus souvent sur le web, par exemple, il y a beaucoup de sites qui utilisent des carousels. Carousels qui sont très, très rarement accessibles. Je pense qu'on en a vu un ou deux sur les sites qu'on a évalués. La gestion des erreurs dans les formulaires. Alors, quand il y a des erreurs dans un formulaire, on doit les signaler à l'utilisateur. Mais si on n'attire pas l'attention du lecteur d'écran, l'utilisateur non-voyant, souvent, n'est pas conscient de ces erreurs-là. Alors, il y a plusieurs exemples là, mm-hmm. qui reviennent fréquemment puis qui constituent des obstacles qui vont faire qu'il y a des gens qui vont se décourager d'utiliser le web à cause de tout ça.
Vous parliez tout à l'heure que un des problèmes majeurs, c'est le contraste de couleurs.
Oui.
Quelles seraient les couleurs idéales? J'imagine que est-ce que ça dépend d'une personne à l'autre? Où il y a vraiment standard, entre guillemets?
Il y a vraiment un standard. En fait, il y a plusieurs outils disponibles sur le web pour évaluer les contrastes de couleurs. C'est sûr que le contraste maximum, c'est noir sur blanc ou blanc sur noir, mais c'est pas très intéressant sur le web. Alors, je veux dire, si on prend un bleu relativement foncé avec du blanc, par exemple, on va avoir un très bon contraste de couleurs. Un rouge brique avec du blanc aussi, ça va donner un très bon contraste de couleurs. Il y a des couleurs qui sont plus difficiles. Là. Le orange, par exemple, c'est difficile d'avoir un bon contraste. Des fois, on réussit avec du noir, mais avec du blanc, c'est sûr que ce ne sera pas suffisant comme contraste. Quelques exemples comme ça.
Dans le fond, ça prend une couleur extrêmement foncée avec une couleur pâle. C'est l'idéal.
C'est ça, oui.
Donc, peu importe la couleur, en autant que ce soit foncé versus pâle.
C'est ça. Puis, il y a des outils qui nous permettent de le vérifier de façon objective. Là. C'est pas juste dans l'œil de l'utilisateur, puis d'un utilisateur à l'autre. Il y a des algorithmes qui ont été développés pour vérifier si le contraste est suffisant ou pas.
Est-ce que, on parle d'algorithmes pour vérifier les contrastes de couleurs, mais est-ce qu'il y a d'autres outils pour essayer de régler les autres problématiques que vous parliez, des carousels, par exemple, tout à l'heure, des mauvais champs qui sont au mauvais endroit? Est-ce qu'il y a des outils, justement, pour ça, pour corriger la situation?
En fait, il y a des outils qui nous permettent de détecter les problèmes pour les corriger. Par exemple, pour les problèmes de contraste de couleurs, il faut juste modifier les couleurs dans la feuille de style, ce qui est relativement facile à faire. Là. Ça prend quelques minutes pour corriger ce genre de problème-là. Pour des problèmes au niveau de l'association entre les étiquettes et les champs de formulaire, on a des outils automatiques qui vont les détecter facilement. Après ça, ça prend, je sais pas, dépendant, ça prend, je dirais, 2 minutes par champ de formulaire. Si vous avez un petit formulaire de 5 champs, c'est fait en 10 minutes. Si vous en avez une vingtaine de champs, ben c'est un petit peu plus long, mais c'est quand même pas très long. Et c'est facile à corriger dans le code source de la page. c'est souvent de la méconnaissance. En fait, les développeurs de sites web se préoccupent seulement de l'apparence du site, puis ils oublient que si c'est pas bien fait derrière, ça va poser des problèmes à un nombre assez important d'utilisateurs.
Donc, une des façons pour corriger ça, ça serait carrément durant les formations que les gens qui font les sites Internet aient une meilleure formation.
Oui, effectivement. Et l'ORAC a communiqué avec le ministère de l'Éducation. Ça nous a pris presque un an et demi à obtenir une réponse après quelques relances. Et ils ont fini par nous dire que c'était pas eux qui contrôlaient le contenu des programmes, mais qu'on devait s'adresser directement au cégep et aux universités, aux responsables de programmes. Alors, on a communiqué avec les espèces de comités de concertation à ces deux niveaux-là. Et malheureusement, probablement qu'on va avoir du travail à faire individuellement avec chacun des cégeps et des universités, ce qui demande pas mal d'énergie, effectivement.
Qu'est-ce qu'on vous répond à ces endroits-là? Que ce n'est pas important ou comment, qu'est-ce qu'ils vous répondent?
Non, non. Je veux dire, le comité au niveau des cégeps nous a répondu qu'ils étaient très sensibles à notre demande et qu'ils allaient transmettre une demande à tous les responsables de programme. Mais il faudrait qu'on les relance, ces responsables de programme-là, si on veut aller plus loin, là, parce que c'est pas suffisant comme réponse si on veut des résultats concrets.
C'est un peu une réponse débarrassée. En tout cas, moi, si je me faisais répondre ça, je trouverais que c'est une réponse un peu débarrassée.
C'est un petit peu plus positif que la réponse qu'on avait obtenue du ministère de l'Éducation. Parce qu'au moins, ils ont transmis l'information aux bonnes personnes. Mais je veux dire, ces personnes-là, quand ils vont recevoir cette information-là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? On ne le sait pas. Et ça nous oblige à beaucoup de contacts et de relances pour essayer de faire passer le message.
Donc, c'est effectivement beaucoup de travail pour vous. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que c'est pas le gouvernement qui doit s'occuper des programmes de cégep et d'université, alors que c'est eux qui financent, c'est eux qui chapeautent le système d'éducation du Québec.
Oui, bien, votre incompréhension est la nôtre. On la partage tout à fait. Et on aurait trouvé normal que le ministère de l'Éducation puisse influencer le contenu des programmes. Mais remarquez qu'on va relancer le ministère de l'Éducation. On a changé le gouvernement. Peut-être qu'on aura une meilleure écoute. C'est à voir.
OK. Les démarches dont vous me parlez, c'est avec l'ancien gouvernement. Il n'y a pas vraiment de démarche qui a été faite actuellement auprès de la CAQ.
Non. Bon, effectivement, là, ça date de quelques mois avant les élections.
OK. Donc, on va espérer que le gouvernement de la CAQ soit plus ouvert à vous demander.
Oui. Et prêt à agir.
Oui, parce qu'il y a ça. C'est bien beau vouloir, mais de là à poser les gestes, il y a encore là une marge.
Oui. Mais c'est le travail de... C'est notre travail de représentation, là, de faire valoir nos besoins et d'essayer de convaincre les gens d'agir. Ça prend souvent du temps, malheureusement.
Donc, justement, pour surveiller ce dossier-là puis vous appuyer dans vos démarches, on vous rejoint de quelle façon?
L'ORAC, le site web du RAC, c'est raaq.qc.ca et le site web du RAM sur lequel on va trouver entre autres les résultats de nos évaluations, c'est un sous-site de celui du RAM, là, c'est labo.raamm.qc.ca. .org, excusez-moi.
Pas de problème. Donc, Jean-Marie Damour, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais on va suivre ça, ce dossier-là, de près. C'est important en 2019 d'avoir un web accessible.
Effectivement.
Merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle.
D'accord.
Merci, au revoir.
Bonne journée.
Eh bien, nous, c'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine dès 16h sur les ondes de CKIA FM ou ckiafm.org. Si vous nous écoutez par Internet, évidemment, il y a la page Facebook de l'émission Les Capés, facebook.com/lescapéscKIA. Et ben malheureusement, aujourd'hui, Annie n'est pas sur place. Je pense que c'est une émission pré-enregistrée auquel vous aurez droit dans quelques minutes. Et nous, comme je le disais, on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye!
C'est CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Parce que le plaisir croît avec l'usage, prolongez l'expérience CKIA sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et sur ckiafm.com.
Salut, c'est Catherine Dorion, votre députée. Je vous invite à notre deuxième soirée festive au local de circonscription de Taschereau. Il va y avoir 3 conférences de style TED autour du monde de la santé avec des infirmières et du monde super intéressant. Il va y avoir ensuite une performance musicale de Millimétrique. Moi, je vais faire un slam sur sa musique. La soirée va se poursuivre à la fois sur le dance floor puis dans les coins avec des conversations politiques et tout ce que vous voudrez. Ça se passe au 275 du Parvis, local 300, le jeudi 28 mars à 19h. La première soirée a été épique, la deuxième va l'être tout autant.
Un message de Catherine Dorion, députée de Taschereau à l'Assemblée nationale du Québec.